Bonjour à chacune, à chacun. Donc, je suis David Rosset, je suis le pasteur de cette communauté. Et depuis quelques semaines, on se met à l'écoute des prophètes, et plus particulièrement d'un prophète qui s'appelle Ézéchiel. Et ce matin, ce sera la dernière fois qu'on se met pour cette période de vie d'église à l'écoute de ce prophète. Et j'ai intitulé ce message « Prendre de la hauteur ». Et peut-être que c'est de circonstance, pour un dimanche de l'Ascension. J'ai été fortement interpellé en préparant cette prédication par une phrase que j'ai trouvée en en-tête d'une règle d'une communauté monastique protestante à Reuilly, dans la région parisienne. C'est des sœurs qui sont là, et ils ont édité un petit bouquin où il y a toutes leurs prières qui vivent dans la communauté, et en en-tête de toutes les prières qu'ils vivent durant l'année, il y avait cette phrase « Soyez le ciel pour vos contemporains, le ciel est en vous. » Pour un dimanche de l'Ascension, je trouve que c'est pas mal, mais même pour chaque dimanche, je trouve que c'est pas mal. « Soyez le ciel pour vos contemporains, le ciel est en vous. » Et je trouve ça assez fort parce que souvent, je nous trouve assez terre-à-terre, les chrétiens. On a tellement peur d'être trop spirituel que peut-être des fois, on est un peu au ras des pâquerettes et puis un peu terre-à-terre. Et cet encouragement, visiblement aussi valable pour même toute une communauté de religieuses, je crois qu'il est aussi valable pour nous. Et c'est ce que je nous invite à faire ce matin, c'est de laisser un peu de ciel entrer en nous pour qu'ensuite, peut-être, on puisse le faire goûter à nos contemporains, à ceux qui nous entourent. De se laisser investir par l'Esprit Saint qui vient en nous et finalement de pouvoir ainsi prendre de la hauteur. Alors ça, c'était il y a quelques jours. J'étais au Tessin, exactement, magnifique région de Suisse. Plus difficile d'y revenir. Hein. Ça, c'est... Je l'ai vu hier après-midi, c'était un peu compliqué. Mais c'était assez intéressant parce qu'on a pris le bus avec les enfants et puis on est allé un peu au hasard parce qu'on voulait prendre encore un autre funiculaire pour aller plus haut. On a dû s'arrêter, et puis on est tombé sur ce jardin qui domine le lac de Lugano. Donc. Et ça m'a vraiment fait penser à cette prédication que je voulais vous partager ce matin, de prendre de la hauteur qui nous permet de voir les choses différemment. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous marchez ou quand vous prenez le bus, ou indépendamment de ce qui se passe, vous êtes sur un promontoire, vous venez de quitter l'endroit, par exemple, au bord du lac. Et ensuite, vous prenez de la hauteur, puis vous voyez les choses complètement différemment. Vous voyez les choses sous un autre angle. Et c'est un peu ce que Ézéchiel vit avec Dieu dans le texte que nous allons méditer ce matin. Il va prendre de la hauteur avec Dieu. Parce qu'effectivement, un des langages utilisés par Dieu, un langage dont on n'a peut-être pas beaucoup l'habitude, c'est le langage des visions, c'est-à-dire où Dieu généralement, transporte le prophète ou quelqu'un d'autre et le place à un autre endroit où son regard sera différent. Il le transporte littéralement, c'est ce qu'on va voir par-dessus tout. Après les paroles, souvent c'est une parole du prophète, parfois il a aussi parlé sous forme d'image pour se faire comprendre, et il a aussi parlé souvent, le prophète Ézéchiel, à travers des expériences, c'est-à-dire qu'il devait expérimenter quelque chose pour donner un message particulier au peuple. Les visions, les paroles, les images, les expériences. Nous, on est assez axés sur la parole, quand même, dans notre société. C'est assez souvent comme ça que ça se passe. C'est beau de voir que, dans la Bible, plusieurs types de transmissions entre Dieu et les hommes sont utilisées. Il n'est pas monoculture, Dieu. Il a une palette de langages différents qui est, pour nous, importante de savoir, parce que peut-être qu'il va nous parler de manière différente, suivant nos situations. Et les deux visions que nous allons aborder ce matin, on pourrait les classer en deux pans ou en deux, pôles qui se rejoignent l'un l'autre et surtout qui dialoguent l'un l'autre. Un pan, ce sera le jugement, dans Ézéchiel 8, et un autre, le pan de la restauration. Chaque fois, il est question de vision du temple et plus précisément de l'intérieur du temple, de savoir ce qui s'y fait. Et puis là, ce qui s'y fait, ce n'est pas très joli, ce qu'on appelle toujours ce terme un peu barbare, qu'on emploie toujours dans la vie de tous les jours, abomination. Hein. c'est-à-dire des choses qui déplaisent fortement à l'Éternel. Et en Ésaïe 43, à la fin de toute cette révélation prophétique, Dieu retransporte Ézéchiel et lui fait voir un temple qui sera restauré, où les abominations auront disparu. Alors c'est ce que je nous invite ce matin, à prendre de la hauteur, et paradoxalement, cette prise de hauteur va nous faire aller à l'intérieur des choses. Cette prise de hauteur va nous faire aller à l'intérieur du temple. On pourrait croire que ça nous éloigne de l'intériorité, mais non, en tout cas, dans ce qui se passe avec Ézéchiel, c'est qu'il prend de la hauteur pour aller plus profondément dans l'intime. Il ne prend pas de la hauteur pour s'évader, il prend de la hauteur pour aller plus précisément au fond des choses. Et puis je crois que c'est assez souvent le cas quand on prend de la hauteur. Moi, quand je me retrouve là au sommet de la Dôle ou quand je me retrouve sur le lac de Lugano, c'est des sentiments qui sont là, pas pour m'éloigner de la réalité, mais pour regarder la réalité peut-être de manière plus intime, de pouvoir creuser un peu plus profondément ce qui se passe dans mon, dans mon être. Et puis je crois que c'est ce qui se passe avec Ézéchiel, où Dieu lui fait prendre de la hauteur, pas pour l'éloigner et puis pour lui dire « fuis Ézéchiel », mais pour aller au fond des choses. Et c'est un peu ce que le texte nous invite à vivre ce matin. Il étendit, je lis dans Ézéchiel 8, à partir du chapitre du verset 3, « Il étendit une forme de main et me saisit par une mèche de ma chevelure. Un souffle m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure qui donne sur le nord, où était l'effigie de la passion jalouse qui provoque la jalousie. La gloire du Dieu d'Israël était là, son aspect était tel que je l'avais vu dans la vallée. Alors, il me conduisit à l'entrée de la cour. Et qu'est-ce que je vis ? Un trou. Un trou dans le mur et il me dit, humain ou homme, creuse le mur, je te prie. Je creusai le mur et une ouverture apparut. Il me dit, entre et vois les abominations funestes qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai, il y avait là toutes sortes d'images de bestioles et de bêtes, des horreurs. Et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient gravées sur le mur tout autour. Il me conduisit dans la cour intérieure de la maison du Seigneur, à l'entrée du temple du Seigneur, entre le vestibule et l'autel. Il y avait environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple du Seigneur et les visages vers l'est. Ils se prosternaient vers l'est devant le soleil. Il me dit, « Vois-tu, humain, vois-tu ce qui se passe ?» Dieu fait prendre de la hauteur à son prophète pour lui montrer non pas la globalité de la ville, mais pour lui montrer l'intérieur, le cœur de la ville. Puis je crois qu'il fait souvent ça, Dieu, avec nous. Il veut nous faire prendre de la hauteur pour que nous puissions examiner notre cœur et voir ce qu'il y a vraiment dedans. Prendre du recul par rapport à peut-être nos habitudes, notre quotidien, nos rails dans lesquels nous sommes mis, et nous faire gratter un peu un trou. Elle est parlante, hein, cette image. Gratter un trou, puis oser regarder peut-être dans les endroits où on n'a pas l'habitude de regarder. Cette action, cette expérience, on peut le vivre que si on se rappelle la table de la scène, que si on se rappelle ce qu'on a vécu dimanche passé où on n'a plus parlé de la tendresse de Dieu. Si on n'a pas cette confiance dans ce Dieu-là qui nous fait gratter l'intérieur de nos vies et puis les endroits où on n'a pas forcément envie d'aller, on n'a aucune chance d'y aller. On va laisser ça de côté, puis on va dire, c'est pas pour moi. Par contre, si on est dans cette confiance, dans la certitude de cette tendresse, que s'il va nous faire gratter les endroits lesquels on n'a pas forcément envie d'aller, on peut y aller et se laisser transporter et oser prendre cette hauteur pour purifier notre être intérieur. Parce que là, on ne va pas se voiler la face. Dieu, il est pris d'une passion jalouse. On est dans ce... dans cette tension entre tendresse de Dieu et violence de Dieu. Dit à Jérusalem ses abominations. Dit ce qui se passe à l'intérieur du temple. Comment comprendre cela ? Si on essaye d'avoir la jalousie qu'on a, par exemple, au sein de nos couples, ce n'est pas forcément la bonne manière de voir les choses, parce que souvent, cette jalousie se transforme de manière néfaste. Je crois que ce qui ressort de cette jalousie de Dieu, c'est qu'il a un amour inconditionnel pour son peuple, et que ce peuple, finalement, souvent, il en fait un peu n'importe quoi de cet amour inconditionnel. Souvent, il prend des libertés, même jusque dans le culte qui était rendu à Dieu. Même jusque dans le culte qui était rendu à Dieu, il arrive à importer d'autres pratiques qui sont néfastes. Au cœur même de la présence de Dieu, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation, se déroulait un culte rendu à d'autres dieux, à d'autres idoles qui étaient alentour. Et ça, Dieu, effectivement, il ne le supporte pas. Il y a une forme d'exclusivité et une forme de description là, d'amour blessé de Dieu. Amour qui ne supporte pas le mal et qui va déployer toute sa puissance pour renverser ce mal. Et puis ça, dans le fond, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Parce qu'on n'est pas laissé seul avec le mal qui nous entoure. La puissance de l'amour qui peut nous faire peur dans ces textes-là de prophètes, c'est une puissance qui nous donne aussi la force d'affronter le mal dans nos vies et d'avoir la certitude de la victoire là-dessus. Et ce n'est pas rien, ça. C'est de se dire que Dieu est vainqueur de ce mal-là, même si la manière et la forme peuvent être un peu insupportables pour nous. L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour fait d'indifférence ou un amour lâche. Ce n'est pas du politiquement correct comme nous avons actuellement. Alors, Dieu qui pourrait nous dire « Ah bon, David, tu vois les choses comme ça, c'est cool, je te soutiens. » Il y a plus d'attachement de la part de notre Dieu, plus de tendresse que de la simple tolérance. Il y a plus de tendresse que de la tolérance chez Dieu. Puis nous, on a de la peine à le comprendre parce qu'on a une société tellement tolérante qu'on ne peut pas comprendre cette incision que Dieu peut faire dans nos vies. Cette forme de dire « va gratter, regarde par le trou et regarde ce qui se passe vraiment ». Qui est-ce que tu adores dans ta vie ? Qui est-ce que tu mets à la première place au cœur de ta vie ? C'est en gros ça que Dieu nous pose comme question ce matin. La tolérance, c'est le fait de dire « finalement, chacun fait comme il veut » et puis on est finalement indifférent à ce que l'autre peut faire. Tant que ça ne me dérange pas, c'est bon. C'est en gros ça, la tolérance. C'est pas mal peut-être pour vivre en société, mais avec Dieu, il y a un cran de plus. Quand il nous dit qu'il nous aime, il n'est pas indifférent à ce que nous vivons. Il ne nous laisse pas simplement dans notre coin avec nos propres habitudes. Il nous dit, moi, ça m'intéresse ce que tu vis, et même si ça te fait mal, je vais poser mon regard là-dessus, sur tes différents aspects de ta vie. Ça peut être la cause de colère, mais c'est avant tout guidé par l'amour pour nous faire aller dans une perspective, c'est ce que nous allons voir maintenant, de restauration. Je peux résumer ces différents points maintenant. Et voilà ce qu'il nous dit quelques chapitres plus loin, dans le chapitre 43. De nouveau, on a le même schéma. Il me fit aller vers la porte, plusieurs années plus tard, la porte qui donnait sur l'est. Or, la gloire du Dieu d'Israël arrivait de l'est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre s'illuminait de sa gloire. La vision que j'avais était comme la vision que j'avais eue, celle que nous venons de lire, lorsque j'étais venu pour la destruction de la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du Kébar. Je tombais face contre terre. La gloire du Seigneur, c'est-à-dire la présence de Dieu, entra dans la maison, dans le temple, par la porte qui donnait sur l'est. Alors, un souffle m'enleva et me transporta à nouveau dans la cour intérieure. La gloire du Seigneur remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison et un homme se tenait près de moi. Il me dit, « Humain, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu de mes pieds. J'y demeurerai toujours, au milieu des Israélites. La maison d'Israël et ses rois ne rendront plus impur mon nom sacré par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil. les montants de leurs portes à côté des montants de mes portes. Il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils m'ont ainsi rendu impur mon nom sacré par les abominations qu'ils ont commises. Le parallèle entre ces deux textes est évident. Pour dire, il y a une partie où Ézéchiel prononce des paroles de jugement, mais ces paroles de jugement ne sont jamais le mot final de la prophétie. Et tout le livre d'Ézéchiel, on peut le lire de cette manière-là. Les premiers chapitres, chapitres 1 à 24, ce que nous avons invité à lire pendant ces quelques semaines de prédication, sont souvent des chapitres où le jugement de Dieu est bien présent. Et les chapitres suivants, de 33 à 48, tous ces chapitres-là nous parlent de la restauration de ces mêmes endroits que Dieu a purifiés. C'est un peu ce que je nous disais avant sur la tendresse de Dieu, c'est un peu ce que je nous disais sur le fait d'avoir chaque dimanche la scène que nous pouvons partager. Si on n'est pas au courant du mot final de l'histoire, si on n'est pas au courant que c'est dans une perspective de restauration que Dieu veut purifier, on est découragé. On se dit, ça ne vaut pas la peine, c'est trop dur, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Par contre, si on arrive à voir la perspective finale, cette perspective de foi, d'espérance et d'amour, on peut lire ces textes avec la confiance et la lucidité nécessaires. Parce que le principe de Dieu, c'est un principe unique de restauration et de pardon. Et pour terminer, on va pouvoir s'intéresser à que signifie cette restauration. Parce qu'on se rend compte que dans le texte qui nous est laissé dans les Actes des Apôtres, qui traite de l'ascension, ce récit où Jésus s'en va, c'est une question que les disciples se posent. Et là, je lis le texte dans Acte 1, à partir du verset 6. Les disciples demandent à Jésus, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Rétablir, restauration, on est dans la même famille de mots. Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, vous recevrez de la puissance quand l'Esprit-Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce sont les dernières paroles que Jésus donne à ses disciples avant qu'ils puissent s'élever et aller au ciel rejoindre son Père. C'est ce qu'il nous laisse, c'est comme une forme de testament. Et ce testament, il parle, comme Ézéchiel, de notre restauration. Avec des yeux humains, on voit peut-être des rétablissements, des restaurations qui restent terre à terre. Ce que Dieu nous dit, c'est que la restauration, elle va venir d'en haut, c'est ce qui va se passer à la Pentecôte, et ça va restaurer notre être intérieur. Ça ne va pas restaurer l'ensemble de la société, mais ça va restaurer notre être intérieur, dans le but que peut-être cette société change un peu, parce que nous serons ses témoins. C'est complètement différent que de vouloir rétablir un royaume ou restaurer un royaume d'ordre politique. Jésus compte sur notre disponibilité de cœur pour se dire que ce Jésus qui est allé au ciel, il apporte une quantité de ciel incroyable qui se déverse sur nous une semaine plus tard à la Pentecôte et dont nous bénéficions toujours actuellement. Si on met autant d'emphase dans nos vies chrétiennes sur l'importance de l'Esprit-Saint dans nos vies, c'est bien pour ça. Parce qu'il y a ce paradoxe de l'ascension, comme on disait, prendre de la hauteur pour aller vers l'être intérieur. Ce paradoxe de l'ascension, il est assez impressionnant parce que Jésus part, c'est-à-dire que physiquement, il quitte ses disciples, mais en fait, ça permettra à des milliers et des millions d'autres personnes de bénéficier de sa présence dans l'intériorité de chacune, de chacun. Ça a permis une restauration beaucoup plus grande que si Jésus était resté, ce qui peut-être aurait pu nous sécuriser. Mais là, il va au ciel et il apporte cette part de ciel en nous. C'est la venue du Saint-Esprit, c'est les magnifiques textes que nous pourrons méditer dimanche prochain. Mais qu'on peut déjà faire nôtre et se réjouir finalement que Jésus se soit élevé, se réjouir que Dieu prononce des paroles de vérité sur nos vies et qu'il nous demande « Mais où en es-tu dans ton cœur ? Quelle est la place que je prends dans ton cœur ?» Parce que j'ai besoin de toute cette place. Et cette place, L'Esprit, c'est un souffle. On dit qu'il a toute la place dans nos cœurs, mais si c'est fermé, il ne va pas s'imposer. C'est nous qui pouvons, comme le prophète est interpellé, faire un trou, puis peut-être que là aussi, il pourra prendre place. Prendre de la hauteur pour se laisser habiter par lui, par l'Esprit Saint, dans notre intérieur. Rétablir une connexion intime d'entre Dieu et nous. Amen. Je nous invite à la prière. Notre Père, merci parce que tu apportes cette part de ciel en nous. Tu apportes cette lumière d'en haut en nous. Merci parce qu'avec toi, nous pouvons prendre de la hauteur. Merci parce qu'avec toi, nous pouvons voir les choses, nos vies, nos manières d'être différemment. Merci parce que tu as décidé de venir habiter en nous par ton Saint-Esprit. Seigneur, tu vois cette table qui se dresse, cette table de la scène, permet que ces différentes parcelles de nos vies, de nos cœurs, puissent être influencées par toi, puissent être habitées par ce ciel qui vient en nous. Merci parce qu'il n'y a plus aucune frontière entre la terre et le ciel, grâce à ta venue, grâce à ton sacrifice pour nous. Seigneur, permets-nous de goûter pleinement à ce que ça signifie pour nos vies. Permets-nous de goûter pleinement à ce ciel qui vient à notre rencontre. Amen.